Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser. Figitus, figitus, ombre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat.
Pas que du ciel descend, des cendres de mort et de fer.
Bonne grève.
Pilote sans qu'on crève, de faim, de froid, de tout. Autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement. Du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un gros score en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Bonsoir. On est un peu en retard, mais on est là. Il est 19h09. Nous sommes le 12 juillet de l'an 2019. C'est le Canu Info du vendredi. Un Canu Info un petit peu spécial ce soir, puisqu'on est tellement des stars qu'il y a des caméras dans le studio. Et en plus, on va vous parler essentiellement aujourd'hui du Kurdistan et de la répression du régime turc, puisque dans un premier temps, nous aurons la chance d'accueillir une personne qui représente le comité de soutien à Tuna Altinel, un universitaire lyonnais qui est actuellement enfermé en Turquie.
Et dans un deuxième temps, on accueillera un journaliste kurde de Turquie qui va retracer un peu son expérience de journaliste et de militant actif au Kurdistan turc et au Kurdistan syrien.
Et c'est parti dès 19h10, vous êtes sur la plus rebelle des radios.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Et oui, on commence tout de suite par accueillir Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Mathieu.
Alors tu es venu nous parler de Tuna Altinel. Est-ce que tu peux me dire qui il est d'abord ?
Alors Tuna Altinel est un mathématicien turc. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a maintenant à peu près 53 ans. Et depuis 1996, donc depuis 23 ans, il est maître de conf en mathématiques à Lyon 1. Et là maintenant, j'ai la chance de le connaître parce qu'on partage le même bureau depuis quelques années. Et bien maintenant, on sait qu'il est, il est enfermé. C'est quelqu'un qui est profondément, je dirais que c'est de caractère, de ce que je connais de lui, c'est injuste. Quelqu'un, en deux mots évidemment, c'est-à-dire quelqu'un de cohérent. Et sensible à l'injustice.
Et alors pourquoi il est enfermé ? Dis-nous, c'est quoi les charges qui sont retenues contre lui ?
Alors, en fait, c'est en deux vagues. Il y a une première vague, c'est qu'il y a eu au moment des massacres dans les provinces kurdes, des universitaires qui se sont sensibilisés, qui ont essayé de sensibiliser les autres, qui ont créé une pétition, qui ont signé une pétition. Et le régime turc a essayé de mettre en place des procès. Il y a plus d'un millier de personnes en procès et des gens qui ont tout simplement juste signé une pétition en demandant la paix dans les provinces kurdes. Et il faut bien savoir que dans la logique du régime turc tel qu'il est actuel, être pour la paix, c'est être contre le régime, en quelque sorte.
D'accord. Donc, premier procès, comment ça se passe ?
Alors, le procès, en fait, les juges... D'ailleurs, il y a eu une grande valse des juges depuis 2015 en Turquie. Et les juges fraîchement nommés sont des gens qui prennent deux par deux, trois par trois, qui essayent de diviser au maximum, qui essayent d'impressionner, tout est fait pour impressionner les gens. Et la première charge là-dessus, c'est la charge classique, c'est la charge de propagande terroriste, sur lequel, bon, il risque, bon, évidemment, de la prison, 15 mois, etc. Généralement, c'est fait pour impressionner. Alors là, il a été jugé en première audition en février. Et en février, à ce moment-là, alors que la plupart des gens, je ne dis pas qu'ils se rétractaient, mais quand même, ils essayaient d'y aller mollo, lui, il a... En même temps, c'est vrai qu'en étant en France, il se sentait protégé, en tout cas au niveau de son statut. Lui, il a dit que non seulement il avait signé la pétition, donc il ne s'est pas rétracté, mais en plus de ça, il l'a écrite. Non seulement il l'a écrite, mais chaque mot, il l'a pesé. On a eu la forme écrite de ce qu'il a lu le jour de cette audition. Chaque mot, il l'a ressenti au moment où il était allé voir les populations en détresse. Et chaque mot, il l'a pensé, il l'a ressenti dans sa chair. Et cette pétition est faite de toutes ces expériences qu'il a eues. Alors là, il y était. Bon, évidemment, il a dit la vérité. C'est un mathématicien, c'est quelqu'un d'extrêmement cohérent, faut bien le voir, et très sensible à l'injustice. Qui a accumulé une certaine colère. Et ensuite, il est retourné, après ce procès-là, il est retourné en France, en attendant un second procès, une seconde audition.
D'accord, seconde audition. Pour voilà. Quelle raison qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve enfermé en Turquie ?
Alors là, c'est que pendant ce temps, entre-temps, après cette première audition, il a été à Villeurbanne, il a été modérateur dans une conférence organisée par Amitié Kurde, qui est une association acceptée à Villeurbanne. Il a passé une vidéo qui présentait clairement les massacres qui avait été filmé, où, dans ces provinces kurdes, où on voyait bien les uniformes, et que ces uniformes étaient clairement des uniformes de l'armée turque. On voyait aussi des milices qui venaient d'on ne sait où. Bon, faut rappeler quand même que les journalistes n'avaient pas le droit d'entrer dans ces provinces, c'était fermé. L'ONU n'a pas pu y aller. D'ailleurs, on peut trouver sur Internet la condamnation d'un groupe de travail de l'ONU qui condamne le fait d'avoir de pas avoir pu être observateur de ce qui se passait là-bas. Et donc, quand il est rentré ensuite en Turquie en avril. Là, à ce moment-là, on lui a confisqué son passeport. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé... il devait être jugé à l'endroit où... Bon, ça a l'air d'être... Le système là-bas fait qu'on est jugé à l'endroit où son père habite. Voilà. Donc là, il était à Balıkesir. Il est tombé sur un petit juge. Et peut-être que le fait qu'il soit... petit juge a fait qu'il a compensé par une très forte charge. Et la forte charge, c'était non seulement propagande, ça c'était déjà un premier procès, mais le second procès, c'était appartenance à un groupe terroriste. C'est complètement absurde. Le groupe dont on parle, c'est une association à Villeurbanne, quoi. C'est des gens... Bon, faut pas... Donc, voilà. Là, à ce moment-là, assez rapidement, il a été emprisonné. Et bon, il faut voir qu'il y a une grande solidarité chez les mathématiciens. Et il y avait déjà les universitaires pour la paix. Donc on a créé un comité de soutien et on a été rattaché à ce groupement des universitaires pour la paix qui nous ont bien aidés pour créer des réseaux. Voilà.
Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque là, le prochain procès, c'est le 16 juillet, donc dans quelques jours.
Voilà. Donc, alors là... Le procès, c'est une seconde audition du premier procès. Là, on verra ce que ça va donner. Bon, faut voir qu'il avait commencé assez fort à assumer ses actes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il va y avoir une première audition du second procès. Ça va être le 30 juillet. Là, on attend. On espère le revoir en septembre, évidemment. Hein. Mais on peut s'attendre à tout. Parce qu'on sait que Erdogan est un peu... Il est diminué en ce moment par tout ce qui se passe là-bas. Et en plus, on a bien vu que les pro-kurdes étaient en train de monter en puissance quand même avec les élections à Istanbul. Donc, on attend. Voilà, on attend.
D'accord. Et donc, juste parce que vous avez sollicité notamment le gouvernement français, qu'est-ce qu'il raconte là-dessus ?
Alors, il faut bien voir que sur appartenance à un groupe terroriste, il est en train de risquer 15 ans. Hein, là. Donc, et il peut y avoir... Alors, ça a l'air d'être un grand coup de bluff, donc... comment ça va se terminer, ça ? Ça, on ne peut pas savoir. Là, vraiment, on ne sait rien. Ça peut être... On peut le voir revoir dans 15 ans, on peut le revoir en septembre. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, le gouvernement... D'abord, il y a les députés. Il y a eu les questions au gouvernement. Donc, un mardi, Cédric Villani, quand même, qui était mathématicien et député, nous a quand même bien aidé sur ce coup-là. Et il a posé la question à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui devait partir. Il lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais il faut bien voir que dans ces problèmes-là, on a deux leviers. Hein. On a un levier qui est politique et, on va dire, diplomatique, et un levier qui est académique. Sur le levier, on va dire, diplomatique, on s'est bien rendu compte que Jean-Yves Le Drian, avec les meilleures volontés qu'il avait... il est empêtré dans d'autres problèmes avec la Turquie, parce que Erdogan en ce moment est totalement incohérent et il a fait venir des missiles, il a acheté des missiles en Russie, donc il y a l'affaire des missiles en Russie, donc ils ont plein de choses à parler. Et bon, malgré tout, il a pas, voilà quoi, ce qu'on a appris de ce qui a fuité au Quai d'Orsay, c'est qu'il n'avait pas forcément Mituna en avant par rapport à tous les problèmes qu'il avait. Alors après, il y a aussi des députés qui nous aident à contacter sur l'autre levier, le levier académique, et aussi on a des contacts directs avec le Conseil des présidents d'université. Donc le Conseil des présidents d'université, là maintenant, essaye de mettre en œuvre, de couper les coopérations recherche avec la Turquie. Il faut bien voir que Erdogan, en ce moment, espère avoir des coopérations avec l'Europe, avec l'Amérique, scientifique. Hein, et lui couper ça, c'est quand même un peu, par rapport au discours qu'il a tenu récemment, c'est un peu lui couper l'herbe sous les pieds. Donc on essaye de jouer, d'une part, sur les boycotts, et ça c'est difficile, de boycotter des coopérations qui ont déjà été en place. Malheureusement, c'est des coopérations avec un organisme de recherche qui s'appelle TÜBİTAK, qui a été un organisme turc qui a été à fond dans les purges demandées par Erdogan. Ils ont été très très zélés là-dessus. Donc nous, notre comité de soutien, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait plus de communication entre le CNRS français. Mais comme ça avait déjà été mis en place, de l'argent avait été rentré, c'était un peu difficile. En revanche, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles coopérations qui se font. Ça a été une promesse, de Fleury, président de Lyon 1. On espère que... Bon, alors ça, on vient de l'apprendre cette semaine. Hein. Ça, on a toujours on gagne des petites batailles. Des jours, on avance d'un pas. Des fois, on recule de trois. Donc voilà en gros ce qui...
D'accord. Et impeccable. Et du coup, pour nous qui sommes en bas de l'échelle et qui sommes ni ministres, ni très influents sur le plan universitaire, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est... comme tout citoyen, se mettre en colère contre tout ce qui se passe, contre les gens qui sont justes, et puis tout ce qu'on voit autour de nous. Donc, par exemple, allez déjà signer une pétition. Alors celle-là, c'est une pétition que vous allez trouver sur le site du comité de soutien à Tunnel Tinel. C'est facile à trouver sur les moteurs de recherche. Et signer une pétition. Là, pour l'instant, on a environ 6800 signatures, dont beaucoup de députés de l'Assemblée nationale, qui ont signé, beaucoup d'universitaires, participer à des rassemblements. Il y a des rassemblements à Lyon, là il y en a eu un hier, il y a aussi des rassemblements à Paris, il y a des rassemblements à Berlin, parce qu'il faut voir que ce monde universitaire est très international, il y a des rassemblements à Berlin, à Londres, etc. Donc on peut se rassembler partout, mais surtout signer des pétitions. Sur le site de soutien, vous trouverez aussi des cartes postales avec des petits mots tout faits en turc, parce que on peut lui écrire en turc, lui dire ça va, Tuna, j'ai appris sur Radio Canu que tu étais, je ne sais pas comment dire Radio Canu en turc, mais bon...
Radio Canu.
Voilà, c'est ça. Et puis lui envoyer, poster ça, et puis lui envoyer ça, ce sera toujours apprécié.
D'accord, et bien soutien total à Tuna Altinel, on vous en reparle très bientôt. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et tout de suite, une petite pause musicale.
Merci Mathieu.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et on accueille aujourd'hui Mazloum, qui est un journaliste kurde. Mazloum, est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots ?
Kendini tanıtabilir misin Mazloum ?
Ben Mazloum, Mazloum Dolan, özgür basın geleneğinden gelen Kürt bir gazeteciyim.
Je m'appelle Mazloum Dolan, désolé. Et je suis un journaliste kurde.
Depuis combien de temps tu es en France?
Ne kadardır buradasın Fransa'da?
Bir buçuk yıla yakın oldu.
Depuis un an et demi.
Et pourquoi t'as été obligé ou tu t'es retrouvé à venir ici?
Neden Türkiye'den çıkmak zorunda kaldın? Neden Fransa'ya geldin?
Mesleğimden kaynaklı yapmış olduğum mesleğimi yaparken yapmış olduğum haberlerden kaynaklı ölüm tehditleri ve yani tutuklama ve ölüm tehditleri aldım artık. Tutuklandım ki 1,5 yılda cezaevinde yattım. Bundan kaynaklı artık Türkiye'de duramayacak duruma geldim. Hı-hı. Bundan dolayı Fransa'ya geldim. Yani Fransa'ya gelmek zorunda kaldım.
Oui. En fait, à cause de juste parce que j'ai fait mon travail comme journaliste parce que je faisais mon travail, j'étais un journaliste j'ai reporté ce qui se passait et j'ai été arrêtée parce que j'ai fait mon travail et j'ai été arrêtée pendant un an et demi et c'était obligé de quitter mon pays.
Avant de quitter la Turquie, du coup, tu étais à Ahmet, Diyarbakir en turc. C'est un contexte très particulier là-bas depuis 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passait là-bas?
Fransa'ya gelmeden önce yanlış bilmiyorsam Ahmet'teydin. Oradaki süreci bize kısaca anlatabilir misin? Neler oldu orada? Neden oradan ayrılmak zorunda kaldın?
Evet, Ahmet'teydim. Zaten ajans merkezimiz Ahmet'teydi. 2015'te başlayan bir sokağa çıkma yasakları ki hala devam ediyor. Yani resmi ve gayri resmi süreçler hala da devam ediyor. Bundan kaynaklı artık yani dediğim gibi savaşlar bitti, şeyler bitti ama baskılar devam ediyor hala.
Okay. Oui, carrément, j'étais à Ahmet parce que mon travail, l'agence des infos que j'ai travaillé était basée à Ahmet. Donc j'étais là et il y avait tellement de pression et qu'il y avait même, c'était interdit de sortir de chez nous dans les rues. Et alors que dans certains quartiers, ce qui continue encore en ce moment en Turquie, et les pressions politiques et tous les autres étaient tellement durs que en fait je ne pouvais plus rester là-bas. Du coup, j'étais obligée de quitter mon pays.
Peut-être ça serait bien que tu expliques du coup qu'est-ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est quand même particulier, hein, une ville qui est en tout cas un quartier d'une ville qui est fermé entièrement par l'armée turque. Donc pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas l'événement, est-ce que tu peux le rappeler en quelques mots?
Oui. Bu konuyu hiç bilmeyenler için, daha önce duymamış olanlar için bize kısaca surda olanlardan bahsedebilir misin? Yani orada asker neden oraya bir saldırıda bulundu? Neler oldu orada? O süreci bize kısaca anlatabilir misin? Hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için.
Tabii ki. 2012'den beri, yani 2012'den beri devlet ve Sayın Öcalan, PKK lideri Sayın Öcalan'ın şahsında gelişen görüşmeler sonucu 2013 Diyarbakır Nevruz'unda bir deklarasyon yayınlandı Sayın Öcalan tarafından.
Okay. Et du coup, il y avait un procès de paix qui s'est passé depuis 2012 et que Öcalan était en train de négocier avec le gouvernement et tout ça. Et il a fait une déclaration en 2013.
Bu déclaration-là, barış süreci başlamıştır. İşte Geylan'ın geri çekilmesi ve artık bundan sonraki siyasi sürecin başladığını anlamına geliyordu.
Ok. Dans cette déclaration, Öcalan disait que, en fait, le procès de paix vient de commencer et guérilla et des militants kurdes, il faut que relâchent leurs armes et que maintenant, ça sera le procès de négociation entre le gouvernement turc et les Kurdes.
Bu süreç devam ettikten bir süre sonra olumlu şeyler var, yani gelişti.
Ouais, depuis ce moment-là, il y avait vraiment des progrès qui étaient positifs au niveau politique.
Ama daha sonra sürecin tam sonuna gelindiğinde hem Türk hükümeti tarafından, Türk devleti tarafından hem aracı olan HDP tarafından son deklarasyon yayınlanıp anayasa düzenleme yapılacaktı.
Ouais. Et du coup, le parti HDP, qui on peut dire que procure dans toutes les minorités et ethniques et politiques en Turquie, était censé, en fait, et qui planifiait de faire la dernière déclaration carrément pour ce procès de la paix entre le gouvernement.
Qui bu yayınlandı da.
Et qui a été publié, d'ailleurs, cette déclaration par le HDP.
Barış sürecinin olumlu gelişmesinden kaynaklı Erdoğan tarafından o deklarasyon yayınlandıktan sonra Erdoğan tarafından masa devrildi. Yani o barış masası devrildi.
Par contre, après toute cette déclaration de la paix, Erdoğan a été annulé toutes ses négociations et tous ses procès de la paix.
Daha sonra devlet tarafından PKK kampına, yani barış süreci devam ederken, yani sözde daha o süreç devam ederken PKK kampına asker indirmeler gerçekleşti.
Okay. Et pendant ce procès de la paix, et l'armée turque en fait ont attaqué et dans les camps kurdes, des guérillas kurdes, malgré les procès de la paix.
Türkiye'nin birçok yerinde, Suruç'ta, Ankara'da, Diyarbakır'da bombalar patlatıldı ve yüzlerce insan, yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.
Pendant tout ce temps-là, il y avait le massacre à Suruç, Ankara, et qu'il y avait des bombes et plein de personnes qui ont perdu leur vie. Et...
Nihayetinde Ceylanpınar'da ölen iki asker bahane edilerek süreç bozuldu.
Et après, le gouvernement turc a utilisé les assassinats de deux soldats turcs à Ceylanpınar pour dire qu'en fait, on arrête le procès de la paix.
Ki şimdi onun da istihbarat yaptığı çıktı ortaya.
Et qui maintenant on sait qu'en fait c'était le agent secret turc qui les a tués. Ces soldats.
Bu süreç sonucu bozulduktan sonra Kürt gençleri her gün 1 2 3 derken Kürt gençleri öldürülüyor veya tutuklanıyordu.
Et pendant ce temps-là, il y avait plein de jeunes kurdes et qui sont actifs politiquement et chaque jour étaient arrêtés ou il y avait des vraiment très fortes pressions politiques sur ces personnes.
Bundan kaynaklı halk kendi öz yönetimini ilan etmek istedi.
Et à cause de tout ça, et le peuple dans ces régions-là voulait déclarer l'autogestion.
Yani biz artık kendimizi yöneteceğiz. Biz sizin yani devleti demokratik bir yapıya getirirsiniz ya da biz kendi kendimizi yönetiriz dediler.
Soit le gouvernement qui va être vraiment démocratique et sinon on va prendre l'initiative. On va faire une autogestion.
Ve nihayetinde devlet baskılarından kaynaklı kendi mahallelerinde alanlar tutmaya başladılar.
Et à cause de la pression du gouvernement et le peuple là dans ces régions, ils ont commencé de défendre leur territoire.
Et c'est ce qui s'est passé à Sur notamment.
Et Sur'da olan bu muydu?
Tabii ki. Sur'da olan da buydu.
Oui, carrément.
Est-ce que tu peux nous raconter toi à Sur quel rôle tu as eu et qu'est-ce que tu as vu là-bas?
Sur'da senin rolün neydi? Sen orada ne yaptın?
Öncelikle sadece Sur'da çalışmadım. Çünkü bu sadece Sur'da gerçekleşen bir olay değildi.
J'étais pas que à Sur. En fait, c'était pas que un procès et une situation qui s'est passée juste à Sur. Du coup, j'étais dans les plein endroits différents aussi.
Türkiye Kürdistan'ında birçok ilde bu gerçekleşti. Cizre, Silopi, Nusaybin.
Ouais. Et dans les plein de régions kurdes genre Cizre, Silopi, Şırnak et c'était à peu près la même situation que Sur.
Et tu peux dire du coup qu'est-ce que tu as perçu ou comment la situation elle a évolué en fait dans ces années-là parce que du coup c'est de 2015 à 2016 si je me trompe pas.
Yanlış hatırlamıyorsam sen 2015-2016 yılları arasında oradaydın değil mi?
Evet.
Yani rolün neydi oradaki süreçteki?
Evet, aynen o süreçte ben Kasım 2015'te son süreçleri başladı, çatışmaların başladı. Aralıkta işte ara devam ediyordu ta ki son kapatmadan önce.
J'étais en fait tekrar söyler misin lütfen?
2015'te Kasım'dan itibaren.
Ouais. À partir de novembre 2015 en fait jusqu'à février 2016 j'étais dans la région, j'étais sur place.
Ben yine Özgür Basın genelinden geldiğim için bir Kürt gazeteci, özgür bir gazeteci statüsünde oradaydım ve sadece mesleğimi gerçekleştirdim.
Et moi je suis un journaliste qui vient de l'idée de la presse, en fait, le média soit libre. Et moi, étant journaliste, j'étais là vraiment juste pour faire mon travail.
Çünkü halka şu anda yandaş havuz medyası dediğimiz medya tarafından yanlış bilgiler aktarılıyordu.
parce que je savais que le mainstream média en Turquie qui disait pas la vérité et qui racontait pas vraiment la situation et tout ce qui passait dans ces régions kurdes. Et moi, pour moi, c'était une grande responsabilité de dire tout ce qui se passe pour de vrai étant un journaliste.
Ben orada yaşanan ne varsa belgeleriyle birlikte yayınladım.
J'ai publié tout avec tout le preuf. Et j'ai publié tout ce qui se passait avec mes preuves.
Le journal pour lequel tu travailles, c'est quoi comme journal ?
Et hangi gazetede ya da hangi medyada çalışıyorsun?
Dicle Haber Ajansı.
Et c'est une agence de presse qui s'appelle Dicle.
Et maintenant, elle est dans quelle situation, cette agence de presse ?
Et bu ajans şu an ne durumda?
Ben tutuklandıktan bir süre sonra kapatıldı. Kehkelerden kapatıldı. Ah. Ve bütün mal varlığına da el konuldu.
Juste après que j'ai été emprisonné et ça a été fermé, cette agence.
Ki şu anda birçok muhabir de cezaevinde tutuklu şekilde.
Et qui sont les autres correspondants, mes collègues, qui plupart sont en prison maintenant en Turquie.
Geçen gün bir arkadaşım müebbet hapis cezasına hapis isteniyle yargılanıyor şu anda.
Il n'y a pas longtemps que j'ai un collègue et qui le juge a décidé de la prison à vie pour lui.
OK. Peut-être on va revenir ensuite sur ton expérience avant ça. Donc l'expérience que tu as eue depuis 2014. Avant, on va faire une petite pause musicale sur cette note un peu triste. Ouais. On envoie la musique et on se retrouve tout à l'heure.
Thank you.
toujours sur Radio Canu, on interviewe Mazloum Doğan. On remercie la camarade qui est venue traduire. C'est un exercice pas facile. Tu nous as parlé de ton engagement du coup en tant que journaliste en 2015-2016 et jusqu'à maintenant. J'aimerais bien qu'on revienne un peu en arrière et que tu nous parles de aussi ton engagement en tant que journaliste à partir de 2014, notamment en Syrie.
Şimdi 2015-2016'dan önceki sürece biraz gidelim istiyorum. Mesela 2014'te savaş muhabiri olarak Rojava'daydın, Suriye'nin birçok bölgesindeydin. Bunlarla ilgili birkaç soru sormak istiyorum.
Tabii ki.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Où t'es allé et qu'est-ce qu'on t'a raconté?
Nerelere gittin? Nasıl deneyim yaşadın? Bize biraz anlatabilir misin orada yaşadıklarını? Bir savaş muhabiri olarak durumu anlayabilmemiz için.
Tabii ki. Öncelikle ben ilk seferde Kamışlı'ya gittim.
Tout d'abord, je suis allé à Kamışlı, en Syrie.
Derika Hamko dediğimiz.
En Kürt'de, on dit Derika Hamudu.
Evet, o bölgeler. Daha sonra Amudi.
Amudi. Après, je suis allé à Amudi. Haseki.
Ve Kobani. O şu hattı komple gezebildim.
Et Kobani aussi. Du coup, j'étais dans toutes ces lignes entre les régions.
Orada insanlık düşmanı Daesh'e karşı yapılan bütün savaşı hemen hemen takip etme şansı buldum.
J'avais la chance de suivre la guerre qui était de Daesh et qui était une existence contre l'humanité.
Ve bu süreçte insanların hem yaşamsal olarak yaşadıkları, hem psikolojik olarak yaşadıkları, kültürel olarak yaşadıkları soykırımları ve katliamları görebildim.
J'ai vu tous ces massacres, tous les crimes contre les humains et toutes les, en fait, la situation triste et qui a fait cette groupe de Daesh dans cette région.
Ve insanların bir umudu olduğunu, onu da yani gözle görülebilecek bir şeydi.
Et c'était vrai que j'ai vu aussi l'espoir. Dans leurs yeux, les yeux des gens qui se battaient contre Daesh dans ces régions.
Ve bu umut uğruna binlerce insan savaşıyordu.
Et juste pour cet espoir, il y avait plein de personnes qui se battaient contre Daesh.
Yani bir yandan yani savaşabilen savaşıyordu, savaşamayan gücü yani silah kaldırmaya gücü yetmeyen yemek yapıyordu. Hiçbir şey yapamayan dua ediyordu.
Les personnes qui pouvaient se battre, elles étaient dans le terrain et se battaient. Et celles qui ne pouvaient pas, soit elles cuisinaient, ou les personnes qui ne pouvaient rien faire, et juste prier au Dieu.
İnsanlar arasında hiçbir menfaat ve çıkar yoktu. Bir bütüne bağlılardı birbirlerine.
Je ne voyais pas que toutes ces personnes qui faisaient tous ces partages, il n'y avait pas des intérêts, ils faisaient parce qu'ils partaient d'un but collectif. Ils se sentaient ensemble pour un but collectif.
Ve bu şekilde umutları yükseliyordu.
Et grâce à ça qu'ils avaient les espoirs, en fait.
Et tout à l'heure, tu sais, tu parlais de preuves aussi des souffrances, des massacres. C'est quoi pour toi des preuves en tant que journaliste?
Az önce bize biraz böyle kanıtlardan bahsediyordun. Biraz o hani o acı çekmenin boyutuyla ilgili bir kanıtlardan bahsetmiştin. Ne gibi kanıtlar?
Yani şöyle söylemek gerekiyor. Bir anne çocuğunu kaybetti. Yani orada olduğum süreç içerisinde bir anne çocuğunu kaybetmişti. Diğer daha yasını tutmadan diğer çocuğuna, kendi ölen oğlunun silahını diğer çocuğuna verip savaşa gönderiyordu.
Il y avait une maman qui a perdu son enfant. Elle pouvait même pas pleurer pour son enfant et qui donnait le pistolet, l'arme de son enfant qui était mort à l'autre enfant pour qu'il puisse y aller et se battre aussi.
Bir süre sonra oğlu şehit düştükten sonra bu sefer kendisi Hiç kimse kalmadığı için kendisi onun silahını kaldırmıştır.
Et après, cet enfant-là était mort aussi. Et à la fin, elle a pris le l'arme elle-même. Elle est allée pour se battre.
Mesela bir diğer örnek vermek gerekirse, bir yerde, bir köydeydik. Orada işte bir yaklaşık 7-8 arkadaş sıkışmışlardı. Daesh çemberi almıştı onları.
Et on était, si je veux donner un autre exemple, on était dans un village, il y avait 8-10 personnes qui étaient coincées à cause de Daesh.
Bunlar son mermilerine kadar savaştılar.
Et tous ces gens-là, ils se sont battus jusqu'au dernier, et on dit boulin, c'est qu'on utilise dans le pistolet. Et du coup, je sais pas comment.
La dernière balle.
Dernière balle, jusqu'à la dernière balle. Voilà, merci.
Mermileri bittikten sonra telsizden diğer arkadaşlarından özür diliyorlardı.
Quand ils avaient plus de balles, ils s'excusaient par le entre ses amis. En fait, on est désolé, on n'a plus de balles, on peut plus se battre.
Bizim mermilerimiz yetmedi, biz daha fazla savaşabilirdik.
On voulait se battre encore, mais on n'avait plus de balles, ils disaient.
Ama yani elimizden bu kadar geldi.
Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait. On peut plus rien faire.
Bunun için sizden ve halkımızdan özür diliyoruz. Sözleri çok etkiliydi benim için.
Et ça m'a touché vraiment quand ils ont dit que on s'excuse vraiment beaucoup à notre peuple qui on peut plus se battre.
Yani diyeceği bir kelime yok mesela o anı yaşamak açısından.
Et pour moi, de vivre ce moment-là, je ne peux pas m'exprimer avec les mots.
Et toi, du coup, qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que tu t'es trouvé en fait, à faire ce métier, tu penses? Et avoir cet attachement-là à un journalisme libre, si je peux dire ça comme ça.
Et özgür bir basın mensubu olarak, seni bu işte orada bulunmana, bu işi yapmana motive eden neydi, iten neydi?
İnançtı.
Juste le croissant et le croyance.
Yani bir gerçeği, yani gördüğüm medyada, yani benim mahallemde yaşanan bir olayı çok farklı bir şekilde anlatılırdı.
Parce que j'habitais dans un quartier, je voyais ce qui se passait. Mais quand je regardais aux médias, c'était 100% au contraire ce qui c'était la réalité. Et moi, juste pour la croyance, je voulais faire ça. Je voulais dire la réalité et tout ce qui passait dans ces régions.
Bundan kaynaklı ne gördüysem onu yayınlamam gerekiyordu.
Je me suis sentie un peu obligée. Tout ce que je vois, il faut que je le publie. Il faut que je le dise. Et voilà, c'était cette croyance qui m'a motivée.
Et tout ce que t'as, tout ton travail en fait, tout ce que t'as fait, les articles que t'as publiés, tu les as encore? Est-ce que ça t'a permis d'être en réseau avec d'autres journalistes comme toi? Est-ce que t'as senti en fait une force à travers ces médias-là?
Bu mesela yayınladım dediğin yazılarını hala duruyorlar mı? Senin gibi durumda olan insanlar var mıydı? İşte yani zorluklarla karşılaşan ne gibi şeyler yaşadın?
Yani Suriye'de çalıştığım basına, Anha Haber Ajansı'nda, Havar Haber Ajansı'nda bulunan arkadaşlarım zaten Suriye'de çalışıyorlardı. Diyarbakır Suriye'de sadece gazeteci bendim.
J'avais des collègues qui travaillaient en Syrie, mais à Sur, j'étais le seul journaliste et qui essayait de faire son travail pendant le massacre.
Yani bundan kaynaklı tek dışarıya gerçekleri aktarabilecek tek kişi bendim.
Et on peut dire que j'étais la seule personne qui pouvait dire vraiment la réalité de la région, tout ce qui se passait, parce que j'étais le seul journaliste à ce moment-là.
À le vivre, quoi.
Ouais. Ouais.
Okay. Maintenant, tu habites en France. Comment tu vois les choses pour toi maintenant? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta vie actuelle? Qu'est-ce que tu fais et comment tu te sens en fait ici en France?
Şimdi Fransa'dasın, tüm bu süreçlerin ardından bize biraz buradaki hayatından bahsedebilir misin? Yani neler hissediyorsun? Nasıl bir süreçten geçiyorsun? Bize birkaç cümleyle anlatabilir misin?
Açıkçası benim için çok zor. Niye zor? Çünkü bir yandan arkadaşlarımı bıraktım, buraya geldim. Bir yandan ailemi bıraktım, buraya geldim. Yaşamımı bıraktım, buraya geldim. Ve en önemlisi kendimi bıraktım, buraya geldim.
Pour moi, en fait, c'est très difficile parce que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté mes amis. Je me suis même quitté moi-même et je suis venu ici. Et donc, c'est une situation très difficile pour moi.
Yani bunları özlüyorum. Bunları hani buraya gelmek düşüncemde yoktu ama dediğim gibi artık yaşam hani ölüm tehditleri almaktan kaynaklı çıkmak zorunda kaldım. Arkadaşlarım tarafından da şey yapıldı ve çıkmak zorunda kaldım.
Dans le premier temps, en fait, je ne pensais pas de venir en France ou en Europe en général. Mais quand j'ai commencé à avoir de le, on peut dire comment, genre, on veut te tuer, les menaces. Ouais, voilà, le menace à ma vie. Et mes amis, ils m'ont dit aussi qu'en fait, c'était un peu obligé de quitter et de venir, en fait.
Burada ailemden bir kısım kişiler, üyeler var. Ve şimdi burada yavaş yavaş dil öğreniyorum.
Une petite partie de ma famille qui sont en France. Et aussi, j'essaie d'apprendre la langue française en ce moment.
Yeni yani işe başladım.
Et je viens de ouais. Je viens de travailler aussi un peu à droite à gauche aussi.
En tout cas, notre interview touche à la fin. Mais du coup, tu es bienvenue à Radio Canu parce que Radio Canu c'est aussi un espace où on peut prendre la parole librement et j'espère que tu vas trouver la force ou les ressources pour continuer en tout cas, ton activité ici, parce qu'il y a plein de choses à dire ici aussi.
Radio Canu'ya tekrar hoş geldin. Umarım ki hem kaynaklar açısından hem motivasyon açısından burada güzel bir yaşam, güzel bir mücadele sürdürebilirsin ve her şey senin için yolunda gider.
Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim aslında. Böyle bir imkanı verdiğiniz için. Kısa da olsa birkaç kelimeyle yaşadıklarımızı anlattık.
Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de la parole et que j'essaie de m'exprimer un peu. Et c'est moi qui, en fait, je merci beaucoup de m'avoir accueilli ici.
Türkiye'de, Suriye'de zaten hepiniz Suriye'yi biliyorsunuz ama Türkiye'de de Ahmet'te mesela yaşanan bir katliamı burada da dillendirebildik.
Oui, parce que généralement les personnes connaissent ce qui se passe en Rojava, mais en fait dans le Kurdistan, Turquie, il y a peu de personnes qui parlent. Et vraiment, je suis contente d'être ici, de parler un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé à Ahmet, à Diyarbakır aussi.
Merci beaucoup Mazloum, on va peut-être faire un petit moment d'agenda, c'est très rapide et puis on vous quittera j'imagine en musique.
Exactement, c'est parti pour l'agenda.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et oui, l'agenda 19h57 sur Radio Canu. Aujourd'hui, essentiellement une invitation, puisque la période estivale n'empêche pas la métropole de continuer son traitement inhumain et que la métropole continue d'expulser. Les camarades et les migrants-migrantes concernés continuent, eux, elles et eux, d'occuper. Et donc, il y a un barbecue solidaire au 40 quai Arloin, mardi 16 juillet. Je vais vous lire l'appel. La métropole poursuit sa politique d'expulsion systématique des bâtiments réquisitionnés sans jamais proposer de solution de relogement pérenne. Face à ces politiques insupportables, opposons une solidarité sans faille. Suite aux expulsions programmées de la trappe de la Maison Mandela, et de la Maison Mandela, hein, sont deux squats ouverts il y a quelques mois, un nouveau bâtiment a été réquisitionné au 40 quai Arloin. Le 40 quai Arloin, c'est quai de Saône, hein, au niveau du 5e arrondissement. Vous trouverez facilement l'adresse sur n'importe quel moteur de recherche. Et afin de rendre le lieu habitable, de l'aménager, de faire des petits travaux, etc., eh bien, les personnes qui l'occupent ont besoin de thunes, mais aussi de coups de main. Et puis, pour fêter l'été, cette nouvelle ouverture et nos solidarités, les habitants, habitantes et leur soutien organise un barbecue solidaire le 16 juillet à partir de 19h. Et donc c'est au 40 quai Arloin. On ne peut que vous encourager à vous y rendre. En tout cas, à nouveau, merci beaucoup à nos invités du jour d'être venus nous rendre visite. Beaucoup de soutien dans vos combats individuels, collectifs et politiques. Pour ce qui nous concerne, eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine sur le 102.2 FM. D'ici là, force à tout le monde.